studio à Paris. Une heure de moins, 13h10 en temps universel. Vous retrouvez tout de suite Adrien Delgrange pour l'actualité des Amériques et d'Haïti.
Merci Raphaël Delvolvé. Bonjour à toutes et à tous. De Lima à Port-au-Prince, en passant par Paris et San Salvador, soyez les bienvenus dans votre journal des Amériques.
RFI.
Nous sommes le 2 mars au sommaire, le Salvador et la victoire du président Nayib Bukele lors des législatives d'avant-hier, même si les résultats ne sont pas encore définitifs. À la une également, pour lutter contre les enlèvements en Haïti, le président contesté Jovenel Moïse annonce de nouvelles mesures. Au Pérou, le procès de l'ex-président Fujimori pour des stérilisations forcées de centaines de milliers de femmes s'est ouvert hier à Lima, compte rendu d'audience. Le Covid sur le continent et la Colombie, premier pays d'Amérique à recevoir les vaccins du dispositif COVAX. Quant à Cuba, les autorités choisissent la souveraineté nationale pour se protéger contre le coronavirus. Nous serons pour cela à la Havane. Au Brésil, nous reviendrons en détail sur cette annonce du président Bolsonaro, à savoir faciliter l'achat d'armes à feu pour les Brésiliens. Et puis dans le journal des Outre-mer, Benoît Ferrand, de quoi est-il question ?
D'élargir la vaccination contre la Covid-19 à tous les habitants de la Guyane qui le souhaitent. C'est en tout cas ce que préconise le comité scientifique local.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand, RFI à Cayenne. Il est 10h10.
RFI, la radio del mundo.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Vous avez lu pour nous les journaux du continent américain et à la une de votre revue de presse aujourd'hui, Stéphanie. Cette victoire, victoire écrasante qui s'annonce au Salvador pour le parti du président Nayib Bukele.
Oui, le résultat final des élections législatives de dimanche n'est pas encore connu, Adrien, mais avec plus de 90% des bulletins dépouillés, le journal La Prensa Grafica annonce Nuevas Ideas, le parti cofondé par le jeune chef de l'État, obtient 2/3 des votes et ainsi la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Désormais, poursuit le quotidien, Nuevas Ideas n'a besoin d'aucun autre parti pour, par exemple, pouvoir confirmer le procureur général de la République ou encore nommer les juges de la Cour suprême. Le président Nayib Bukele a les mains libres.
Et justement, Stéphanie, cette omnipotence du chef de l'État au Salvador en inquiète d'ores et déjà plus d'un.
Oui, tout à fait. Dans son éditorial, La Prensa Grafica met en garde le président. Nayib Bukele considère-t-il le pouvoir comme un outil pour transformer et améliorer la politique et la société salvadorienne ou comme une fin en soi? Pour une gouvernance saine, l'équilibre entre les pouvoirs est primordial. Les tentatives d'intimidation ou de soumission doivent être bannies, la génuflexion devant le chef doit cesser. Le site information en ligne de l'université centra-américaine José Simeón Cañas voit lui aussi deux scénarios possibles. Avec la victoire écrasante de Nuevas Ideas débute soit une lutte encore plus impitoyable pour le contrôle absolu de tous les mécanismes de pouvoir, soit une étape plus apaisée avec un gouvernement qui ne sera plus minoritaire, estime l'éditorialiste. Avant de conclure, nombreux sont ceux qui redoutent le premier scénario.
Alors, force est de constater, Stéphanie, qu'une importante majorité de Salvadoriens a placé le pouvoir entre les mains d'un nouveau parti, celui du président Bukele, mettant ainsi fin à l'hégémonie des deux partis traditionnels.
Et ces électeurs qui ont décidé de ce résultat avaient des raisons pour voter ainsi, souligne le quotidien El Mundo. Ce sont des personnes dont les besoins fondamentaux n'ont jamais été satisfaits. Ces électeurs ont été convaincus par les projets sociaux mis en place par le gouvernement Bukele. La démocratie et la séparation des pouvoirs comptent bien moins pour eux. De son côté, le Diario del Salvador se félicite du résultat de ces législatives qui, selon lui, récompensent les changements concrets dans l'accès des Salvadoriens à la santé, à l'éducation, la sécurité et au logement.
RFI à Lima, 8h14, direction le Pérou maintenant, où s'est ouvert hier un procès très attendu, celui de l'ancien président Alberto Fujimori et de trois de ses ministres, tous les trois donc accusés d'avoir fait stériliser entre 96 et 2000 plus de 300 000 femmes, la plupart sans leur consentement. À Lima, la correspondance de Viloen Munoz-Boileau.
Les victimes attendent ce procès depuis plus de 20 ans. Esperanza est l'une d'elles. En 1996, cette Péruvienne venait d'accoucher de son deuxième enfant quand des médecins ont débarqué chez elle.
Ils m'ont emmenée de force dans une ambulance et je n'étais pas la seule. On était plusieurs femmes entassées comme des animaux. On nous a emmenées à l'hôpital, puis en salle d'opération. Et après, je ne me souviens plus de rien.
Comme elle, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées, souvent de force et dans des conditions sanitaires précaires. Certaines en sont mortes, les autres subissent aujourd'hui encore de nombreuses séquelles. La plupart étaient issues de milieux défavorisés, parlaient le quechua et vivaient dans des zones rurales. Elles ont été victimes de la politique de planification familiale mise en place dans les années 90 par le président Alberto Fujimori au nom de la lutte contre la pauvreté. Lors de la première audience du procès, qui s'est tenue de manière virtuelle hier, le ministère public a présenté les charges qui pèsent contre l'ancien président et trois de ses ministres, accusée de violation des droits de l'homme. Maria Elena Carbajal, présidente de l'association des victimes, se réjouit que le processus judiciaire ait enfin débuté.
C'est un soulagement parce que ce dossier a été archivé à plusieurs reprises et depuis sa réouverture en 2018, le début du procès a été constamment repoussé. Mais on a confiance en la justice, qui certes a tardé, mais finit par arriver.
Alberto Fujimori purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité, mais n'avait jusqu'ici pas été jugé pour les stérilisations forcées. Viloy Minos Boileau, Lima, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Dans l'actualité haïtienne à présent, le président contesté Jovenel Moïse a annoncé hier, Stéphanie Schuller, de nouvelles mesures pour lutter contre les enlèvements.
Oui, Jovenel Moïse a annoncé la création d'une cellule anti-kidnapping pour renforcer la cellule anti-enlèvement qui existe déjà, fait remarquer le Nouvelliste. Cette cellule a pour objectif de faciliter la synergie entre différentes entités de l'État, comme les ministères et les collectivités territoriales. Jovenel Moïse veut aussi contrôler les mouvements financiers et la circulation des armes à feu. Sur ce dernier point, le président contesté, comme l'appelle désormais le journal, a annoncé le renforcement des contrôles des douanes et notamment des ports par lesquels les armes et les munitions entrent en Haïti, ainsi qu'un renforcement du contrôle des compagnies de sécurité qui importent également des armes et des munitions.
Alors, comment réagit la presse haïtienne à ces nouvelles annonces ?
Eh bien, avec beaucoup de scepticisme, Adrien. Pour l'agence Alter Presse, les nouvelles annonces du président de facto font partie de sa série de promesses, mais force est de constater que depuis plusieurs mois, aucune action concrète n'a été observée sur le territoire national où les actes de kidnapping, les assassinats et d'autres forfaits continuent d'être perpétrés par des bandits lourdement armés, des criminels qui, de plus, circulent dans des véhicules à vitres teintées portant des plaques sur lesquelles est écrit « officiel » ou « service de l'État ».
Et même son de cloche a noté dans les colonnes du National ce matin.
Oui, aucune opération policière n'a pour l'instant mené à la libération des citoyens kidnappés et la capture des ravisseurs. Les cas de kidnapping continuent d'augmenter, constate le quotidien haïtien qui poursuit. La banalisation du crime est un acte antipatriotique qui transforme notre pays en un enfer dans le bassin des Caraïbes. Un repoussoir sanglant pour les potentiels investisseurs et ceux qui souhaitent visiter ce pays qui souffre aujourd'hui le martyre. Et le National de conclure. Chaque week-end, les foules sont plus nombreuses et fixent droit dans les yeux nos actuels dirigeants pour exiger que cessent nos rendez-vous programmés avec la mort.
Stéphanie Schuller dans la revue de presse des Amériques. L'heure à présent de nous intéresser à l'actualité brésilienne.
RFI, as vozes do mundo.
La lutte contre la pandémie de coronavirus domine toujours l'agenda politique au Brésil, alors que le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, continue lui de faire, dit-il, le service minimum pour enrayer la propagation du Covid. Une chose est sûre, il est très actif sur d'autres fronts. Il y a 10 jours, par décret, Jair Bolsonaro a rendu plus facile l'achat des armes à feu. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Alors, faciliter l'acquisition des armes, c'était une de ses promesses électorales. Et Jair Bolsonaro, eh bien, est en train de la réaliser.
Oui, exactement. Depuis le début de la présidence, il y a 2 ans, il a déjà pris 31 décisions dont la moitié étaient des décrets qui ont rendu l'accès aux armes plus facile. Par exemple, désormais, chaque citoyen brésilien peut acheter jusqu'à 6 armes et il a le droit d'emporter 2. Le président a également élargi la gamme des calibres disponibles pour les particuliers qui peuvent dorénavant se procurer de 600 munitions en une seule fois. L'objectif de Jair Bolsonaro, qui aime se présenter, souvenez-vous, en mimant un tir de pistolet avec les doigts, c'est, je cite, « d'armer la population brésilienne afin qu'elle puisse se défendre ». Alors, défendre contre qui ? Bien contre la dictature, ben si, armer la population serait, selon lui, le meilleur remède contre le retour d'une dictature militaire.
Et alors au Brésil, la vente des armes a-t-elle énormément augmenté grâce à cette politique ?
Oui, énormément, Adrien. L'année dernière, 180 000 nouvelles armes ont été enregistrées au Brésil, un record. La vente des armes a presque doublé par rapport à l'année précédente, 2019. Cette donnée, Adrien, il faut la confronter toutefois à une autre, à savoir le rejet de cette politique pro-armes par la majorité des Brésiliens, selon les sondages. En fait, le président ne bénéficie pas du tout du soutien du public pour faciliter l'achat et la possession des armes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas de débat au Parlement et que ces décisions sont prises unilatéralement par décret.
Alors, quelles sont les conséquences au niveau de la sécurité publique? Jair Bolsonaro avait aussi promis de rendre le pays plus sûr, entre autres en permettant aux Brésiliens d'acheter plus facilement des armes. Est-ce le cas?
Non, clairement non. Après une légère baisse de violence ces dernières années, il y a eu en 2020 une augmentation de 5% des homicides, et cela malgré la pandémie et les restrictions de circulation. Mais ce chiffre-là, les sympathisants du président et lui-même ne le mentionnent pas ou le contestent. Pour eux, l'accès plus facile aux armes depuis 2 ans a permis de faire baisser le nombre de morts au Brésil, même si les statistiques disent le contraire. En fait, Adrien, la politique des armes ressemble sur ce point très fortement à celle de la lutte contre la pandémie. Selon des experts, le gouvernement Bolsonaro fait fi des données scientifiques, prend des décisions, je cite un expert, en dépit du bon sens et reste imperméable aux critiques.
Merci beaucoup, Harim Lippold, pour toutes ces informations en provenance du Brésil. Dans la revue de presse des Amériques, je vous en parlais dans les titres, la Colombie est devenue hier le premier pays d'Amérique latine à recevoir des vaccins contre le Covid-19 distribués par le dispositif COVAX. Mais le sujet qui nous intéresse à présent, c'est à Cuba. La Havane a choisi la souveraineté pour se protéger contre le coronavirus en développant son propre vaccin. Le vaccin cubain entre en ce début mars dans la dernière phase de ses essais cliniques. Et c'est un sujet de Domiti Piron.
C'est une question de souveraineté. Le vaccin cubain contre la Covid-19 a d'ailleurs été baptisé Soberana et le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez le rappelait encore au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Gracias al desarrollo de la ciencia cubana.
Grâce au développement de la science cubaine et au travail dévoué de nos scientifiques, nous espérons pouvoir vacciner toute notre population dans l'année.
De la population cubaine.
Cuba développe actuellement 4 candidats vaccins. Le plus avancé, Soberana 2, entre en ce début mars dans la 3e et dernière phase des essais cliniques sur une population de 150 000 personnes à Cuba et en Iran. Cette stratégie souveraine s'explique par le prix des vaccins sur le marché mondial et parce que la production n'est pas à la hauteur de la demande, selon le directeur de BioCuba Pharma, l'industrie biotechnologique et pharmaceutique d'État. Eduardo Martinez Diaz assure également que Soberana 2 présente des avantages que n'ont pas les autres vaccins.
L'un des avantages de nos candidats vaccins, c'est qu'ils ne requièrent pas de système de congélation. Il leur faut une température de 2-3 degrés comme d'autres vaccins. Un autre avantage de notre vaccin, contrairement à d'autres, c'est qu'avec l'apparition de nouveaux variants du virus, il faudrait appliquer une troisième dose pour augmenter l'immunité, mais certains ne le permettent pas. Dans le cas de notre vaccin, il est possible d'injecter plusieurs doses successives, plusieurs rappels.
Ce vaccin est développé par BioCuba Pharma et l'Institut Finlay et cette avancée scientifique se base sur 40 ans de savoir-faire biotechnologique cubain. Le pays produit déjà 8 des 12 vaccins administrés aux enfants et en exporte dans une trentaine de pays. Mais pour le vaccin contre la Covid, les Cubains ont désormais obligation de résultat, car le pays n'a acheté aucune dose des autres vaccins actuellement injectés dans le monde et ne fait pas non plus partie du dispositif COVAX qui assure une répartition équitable dans le monde des doses vaccinales. Le pari de la souveraineté dans la production de son vaccin est donc risqué pour Cuba, qui doit aussi faire face aux sanctions américaines pour le développer, comme l'explique Eduardo Ojito Magas du Centre d'immunologie moléculaire.
L'institution BioCuba Pharma. BioCuba Pharma se bat avec acharnement pour parvenir à se fournir en matières premières. Certains de nos fournisseurs exigent qu'aucun des composants que nous utilisons ne contienne du matériel en provenance du marché des États-Unis.
Pour l'heure, les résultats des essais cliniques sont encourageants selon les autorités qui assurent la sécurité et l'efficacité de leurs vaccins, à tel point que la production est déjà en route. Le pays prévoit 100 millions de doses d'ici la fin de l'année, de quoi largement vacciner les 11 millions d'habitants et faire de ce vaccin un produit d'exportation. Alors que Cuba manque de médicaments et d'aliments pour sa population, certains peinent à comprendre comment le pays peut se permettre de développer un tel vaccin. Mais pour l'État, Soberanados pourrait bien devenir une manne financière et même une valeur d'échange avec des pays comme l'Inde, l'Iran, le Venezuela et le Vietnam. Aussi, le vaccin devient un argument de vente pour attirer des touristes sur l'île.
Les touristes tendront l'option. Les
touristes se verront proposer l'option s'ils le souhaitent de se faire vacciner, explique le directeur de l'Institut Finlay dans cette vidéo qui propose pour Cuba un nouveau slogan touristique, plage Morito et vaccin. Mais les autorités et les scientifiques assurent que ce vaccin a des fins humanistes. Les bénéfices ne sont qu'un effet secondaire, comme l'explique Vicente Vélez.
Nous ne sommes pas une multinationale, nous fonctionnons à l'envers. Notre objectif est de fournir davantage d'accès à la santé et les bénéfices en seront la conséquence. Ça ne sera jamais notre priorité.
Nunca va ser la prioridad.
Domitie Piron, La Havane, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et nous retrouvons pour cela Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour Adrien.
Élargir la vaccination contre le Covid à tous les Guyanais qui le souhaitent, eh bien c'est ce que préconise le comité scientifique local.
Oui, la menace des variants, et tout particulièrement évidemment en Guyane, la souche brésilienne, suscite l'inquiétude des experts médicaux et scientifiques locaux. Ils souhaitent donc faire évoluer la stratégie de l'État en la matière pour faire face à la hausse des cas de contamination. Serge Plénette est membre du comité scientifique territorial. Il est au micro d'Olivier Damon.
Ce frémissement, on espère que notre vaccination va l'enrayer, parce que c'est la seule région française, extra-hexagonale française, qui aujourd'hui a une politique assez dynamique dans la vaccination. On vaccine au-delà de 50 ans, donc on a ramené, après les personnes qui étaient âgées, les personnes qui avaient des comorbidités, on a ramené la vaccination aujourd'hui jusqu'à 50 ans. Et nous, ce qu'on préconise, c'est que pour protéger ce petit territoire en population, il faudrait augmenter cette vaccination et l'ouvrir à tous, y compris chez les jeunes. Parce que n'oublions pas que les différents variants qui se nous portent sont des variants qui, évidemment, touchent aussi les jeunes et parfois même gravement les jeunes. Donc, si on parvient à vacciner un maximum de notre population, on espère qu'on va nous protéger.
Et ce n'est pas encore gagné, puisqu'à ce jour, un peu plus de 4000 personnes ont été vaccinées en Guyane. La Guyane comptant un peu plus de 294 000 habitants. Cela fait donc, si notre petit calcul est exact, 1,4% de la population vaccinée pour l'instant. Direction la Guadeloupe maintenant, avec l'obligation du port du masque pour les enfants en école primaire ou élémentaire. Obligation désapprouvée bruyamment par de nombreux parents guadeloupéens. Alors l'académie, le rectorat, dans une circulaire, indique qu'un élève sans masque pourrait être refusé par le chef d'établissement. Mais face à la grogne provoquée par la décision, la rectrice d'académie propose notamment la mise en place de l'instruction à domicile. Écoutez Christine Gangloff-Ziegler au micro de Laetitia Broulé.
Si effectivement les parents refusent totalement le port du masque, il leur sera proposé d'être reçu dans les services du rectorat pour échanger et voir les modalités de la mise en place de l'instruction à domicile jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Ce qui peut être difficile à mettre en place, c'est à la fois les cours en présentiel et les cours à distance. Donc nous privilégions évidemment les cours en présentiel parce qu'on a l'expérience du premier confinement, on sait que c'est important que les enfants soient à l'école, soient avec l'ensemble de leurs équipes éducatives et avec les autres élèves, et que c'est un facteur aussi qui est favorisant de l'apprentissage.
La rectrice de l'Académie de Guadeloupe, et c'est un sujet sans doute dont on n'a pas fini d'entendre parler. Bon après-midi Adrien, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand pour toutes ces informations ultramarines diffusées quotidiennement sur les différentes fréquences de Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal d'Haïti et des Amériques, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté. Il a été réalisé par Hélène Avril, rédaction en chef Sylvie Noël. Quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Radio Foot International.